L'affaire Dreyfus. Encore mon ami Dupuis. C'était dans les salons de Mademoiselle Marianne de Beauvais, à cette grande fête patriotique dont les journaux mondains nous ont donné de si merveilleux récits. Accaparé par M. Lavedan, le père, Dupuis ne put me joindre que fort tard dans la soirée. Nous profitâmes de ce que le colonel du Paty de Clam récitait des vers symbolistes pour nous réfugier dans une sorte de petit fumoir qu'éclairait, de sa lueur discrète, une lampe à longue tige enjuponnée de crépons tricolores. Le ministre s'assit sur un divan, alluma une cigarette, et tandis que, en face de lui, négligemment, j'enfourchais une chaise et croisais mes bras sur le rebord du dossier, il me demanda « Voyons, qu'est-ce que tu as encore à me dire ?»« J'ai à te dire, » déclarai-je gravement, « que je ne comprends rien à ton obstination. Elle me navre et elle te perd. Tu as la plus belle occasion de te retourner tel un gant. Et tu hésites. Je t'assure que c'est idiot. Mais dans quelques jours, la clameur publique, mon ami Dupuis m'interrompit. « Épargne-moi ces bêtises !» La clameur publique, mais je m'en fous. » En dépit de l'énergie de son verbe, je remarquai qu'il avait parlé d'une voix molle et qu'il était soucieux. Il y eut un moment de silence, durant lequel nous entendîmes, par-delà les rumeurs approbatives, trémoler la voix du colonel du Paty de Clam. Dupuis reprit. « Mon cher vieux, je connais l'histoire, et ce n'est pas pour rien que j'ai été recteur de faculté. Écoute ceci. Mazarini était fort impopulaire. On le chansonnait, Dieu sait comment, et il paraissait s'irriter beaucoup de ses chansons. Dans le fond, il s'en moquait, parce que ce n'était pas une bête, et qu'il savait qu'un peuple qui chante est un peuple qui paie, et qu'un peuple qui paie est un etc., etc. Bref, un jour, semblant céder à la colère, il fit saisir toutes ses chansons injurieuses, et sais-tu ce qui arriva? Il arriva que ce diable d'homme les remit en vente aussitôt, et pour son compte, et qu'il y gagna 10 000 écus. Mais pourquoi me parles-tu de Mazarin et de ses chansons? Cela n'a aucun rapport. Le ministre professa sentencieusement. Pour les penseurs, mon cher petit, toutes les choses et tous les gens ont entre eux des rapports mystérieux. » Et il expliqua. Cette anecdote signifie que les hommes de la trempe de Mazarin et de la mienne, nous nous fichons de la clameur publique, parce que nous savons toujours en tirer 10 000 écus. As-tu compris? Cette assurance tintait faux. Je n'en fus point la dupe. « Tu n'es pas sincère, » lui dis-je. « Il y a, sur ton cynisme, comme une mélancolie. On sent que tu parles pour t'étourdir. Dans le fond, tu es embêté. Embêté? Avoue que tu es embêté. Moi? Fit-il. Oui, toi. Parce que, depuis les révélations d'Esterhazy, il y a quelque chose de changé dans le pays. » Mais il ne voulait pas se rendre. Il répondit avec une jovialité fanfaronne. « Je me fiche du pays. Y a-t-il quelque chose de changé dans le Parlement? N'y ai-je pas toujours une majorité d'imbéciles, de peureux et de lâches? Hélas! Eh bien alors, qu'est-ce que tu me chantes? » Je tentais de faire un suprême appel à son orgueil, à son intérêt, à sa poigne, à sa terreur. « Mais lis donc les journaux nationalistes » m'écriai-je. « Ils sont désemparés, éperdus. Ils ne savent plus ce qu'ils disent. La libre parole elle-même lâche bois d'Èvre. Arthur Meyer cherche une variante à son « Bonsoir, messieurs » de la débandade boulangiste. Et bois d'Èvre. Enfin, voyons, bois d'Èvre. » Mon ami jeta dans un cendrier sa cigarette éteinte et, haussant les épaules, oh, « Les révélations d'Esterhazy !» fit-il avec un sourire méprisant. « Mais qu'est-ce que les révélations d'Esterhazy auprès de celles que je pourrais faire si je voulais ?»« De la gnognotte, mon petit, de la gnognotte. Toutes les infamies ignorées, tous les crimes inconnus, même d'Esterhazy, le rôle de bois d'Èvre, Égonce, l'autre, Pellieu, Gribelin. Toute cette tragédie sinistre de l'état-major, je la connais, moi qui te parle, et je la connais d'autant mieux que j'y ai participé, moralement du moins. Et c'est parce que j'y ai participé que je la couvre. Entendons-nous cependant, ces criminels, je les couvre aujourd'hui. Demain, peut-être, je les châtirai, si je ne puis faire autrement. Et je les châtirai d'autant plus rudement que je les aurai plus longtemps couverts et plus énergiquement protégés. Voilà comme je suis, moi. Mais nous n'en sommes pas là. J'espère que nous n'en serons jamais là. Puis, brusquement, « Eh bien, oui, là, je suis embêté, » confessa-t-il. « Ah, tu vois que j'avais raison. Et je suis embêté pour des choses que tu ne soupçonnes pas. Je suis embêté parce que l'affaire de l'explosion ne marche pas. Tout le monde me lâche. Par une ironie vraiment trop douloureuse, il n'y a que 1000 voix qui me comprennent. 1000 voix, est-ce assez expiatoire ? » Il s'anima. « Et pourtant, est-ce que cette explosion était venue par hasard ? Ne vois-tu pas tout le parti gigantesque qu'un homme tel que moi pouvait tirer d'un fait aussi heureux, aussi miraculeusement opportun ? N'étais-je pas enfin dans mon véritable élément ? N'avais-je point reconquis tous mes moyens de gouverner ? Ce que Quesnay, Déroulède, Lemaître, ce que tous mes mensonges, tous mes attentats contre la justice, ce que cette loi monstrueuse de dessaisissement n'avait pu faire, voilà qu'une explosion de poudrière allait le faire. Oh, explosion providentielle et charmante, chère explosion, explosion bénie, combien je vous ai aimé de m'avoir rappelé à moi-même. Et cette diversion admirable que vous m'apportiez, explosion de mon cœur, et cette chasse aux anarchistes, et ces perquisitions, ces relégations, cet affolement dans les esprits. » Il sembla durant quelques minutes se perdre dans un rêve érostratique, après quoi, revenu à la réalité, il gémit. « Et ça rate. D'ailleurs, tout rate. Je suis foutu. » À ce moment, mademoiselle Marianne de Beauvais entra dans le fumoir. Malgré le tragique de la situation, je ne pus m'empêcher d'admirer sa grâce rayonnante de femme et de patriote. « Pardon, dit-elle, je cherchais le général. » Mon ami Dupuis s'était levé. Il murmura dans un geste de découragement prophétique et circulaire, « Le général, mademoiselle, hélas, il n'y a pas de général. Il n'y a plus, il n'y aura plus jamais de général. Tout rate. Nous sommes foutus. » Mademoiselle Marianne de Beauvais porta la main à son cœur, poussa un petit cri et tomba toute raide sur le tapis. Elle n'était pas morte. Et, dans les salons, s'était eue la voix du colonel du Paty de Clam. L'Aurore, 11 mars 1899.